Henri Murgère, scène de la vie de Bohème, Mademoiselle Mimi. Oh, mon ami Rodolphe, qu'est-il donc advenu pour que vous soyez changé ainsi? Dois-je croire les bruits que l'on rapporte, et ce malheur a-t-il pu abattre à ce point votre robuste philosophie? Comment pourrais-je, moi, l'historien ordinaire de votre épopée bohème, si pleine d'éclats de rire, comment pourrais-je raconter sur un ton assez mélancolique la pénible aventure qui met un crêpe à votre constante gaieté et arrête ainsi tout à coup la sonnerie de vos paradoxes? Ô Rodolphe, mon ami, je veux bien que le mal soit grand, mais là, en vérité, ce n'est point de quoi s'aller jeter à l'eau. Donc je vous en convie au plus vite à faire une croix sur le passé. Fuyez surtout la solitude peuplée de fantômes qui éterniserait vos regrets. Fuyez le silence où les échos des souvenirs seraient encore pleins de vos joies et de vos douleurs passées. Jetez courageusement à tous les vents de l'oubli le nom que vous avez tant aimé et jetez avec lui tout ce qui vous reste encore de celle-là qui le portait. Boucle de cheveux mordus par des lèvres folles du désir, flacon de Venise où dort encore un reste de parfum qui en ce moment serait plus dangereux à respirer pour vous que tous les poisons du monde. Au feu, les fleurs de gaze, de soie et de velours, les jasmins blancs, les anémones empourprés par le sang d'Adonis, les myosotis bleus et tous ces charmants bouquets qu'elle composait au jour lointain de votre court bonheur. Alors, je l'aimais aussi, moi, votre Mimi, et je ne voyais pas de danger à ce que vous l'aimassiez. Mais suivez mon conseil, au feu les rubans, les jolis rubans roses, bleus et jaunes, dont elle se faisait des colliers pour agacer le regard. Au feu les dentelles et les bonnets et les voiles, et tous ces chiffons coquets dont elle se parait pour aller faire de l'amour mathématique avec M. César, M. Jérôme, M. Charles, ou tel autre galant du calendrier, alors que vous l'attendiez à votre fenêtre, frissonnant sous les bises et les givres de l'hiver. Au feu, Rodolphe, et sans pitié, tout ce qui lui a appartenu et pourrait encore vous parler d'elle. Au feu, les lettres d'amour. Tenez, en voici précisément une, et vous avez pleuré dessus comme une fontaine, ô mon ami infortuné. Comme tu ne rentres pas, je sors pour aller chez ma tante. J'emporte l'argent qu'il y a ici pour prendre une voiture, Lucille. Et ce soir-là, ô Rodolphe, vous n'avez pas dîné, vous en souvenez-vous ? Et vous êtes venu chez moi me tirer un feu d'artifice de plaisanterie qui attestait de la tranquillité de votre esprit. Car vous croyiez Mimi chez sa tante, et si je vous avais dit qu'elle était chez M. César ou avec un comédien de Montparnasse, vous auriez certainement voulu me couper la gorge. Au feu encore cet autre billet qui a toute la tendresse laconique du premier. Je vais me commander des bottines. Il faut absolument que tu trouves de l'argent pour que je les aille chercher après-demain. Ah, mon ami, mais ces bottines-là ont dansé bien des contredanses où vous ne faisiez plus vis-à-vis. À la flamme, tous ces souvenirs et un vent, et au vent leurs cendres. Mais d'abord, ô Rodolphe, par amour pour l'humanité et pour la gloire de l'écharpe d'iris et du castor, reprenez les rênes du bon goût que vous aviez abandonné durant votre souffrance égoïste, sans quoi il peut arriver des choses horribles dont vous seriez responsable. Nous en reviendrions aux manches à gigot, aux pantalons à petits ponts, et on verrait un jour venir à la mode des chapeaux qui fâcheraient l'univers et appelleraient la colère du ciel. Et maintenant, voici le moment venu de raconter les amours de notre ami Rodolphe avec Mademoiselle Lucille, surnommée Mademoiselle Mimi. Ce fut au détour de sa 24e année que Rodolphe fut pris subitement au cœur par cette passion qui eut une grande influence sur sa vie. À l'époque où il rencontra Mimi, Rodolphe menait cette existence accidentée et fantastique que nous avons essayé de décrire dans les précédentes scènes de cette série. C'était certainement un des plus gais porte-misères qui fussent au pays de Bohême. Et lorsque, dans sa journée, il avait fait un mauvais dîner et un bon mot, il marchait plus fier sur le pavé, qui souvent faillit lui servir de gîte, plus fier sous son habit noir, criant merci par toutes les coutures, qu'un empereur sous la robe de pourpre. Dans le cénacle où vivait Rodolphe, par une pose assez commune à quelques jeunes gens, on affectait de traiter l'amour comme une chose de luxe, un prétexte à bouffonnerie. Gustave Colline, qui était depuis fort longtemps en relation avec une giletière, qu'il rendit contrefaite de corps et d'esprit à force de lui faire copier jour et nuit les manuscrits de ses ouvrages philosophiques, prétendait que l'amour était une espèce de purgation, bonne à prendre à chaque saison nouvelle, pour se débarrasser des humeurs. Au milieu de tous ces faux sceptiques, Rodolphe était le seul qui osa parler avec quelque révérence de l'amour. Et quand on avait le malheur de lui laisser prendre cette corde, il en avait pour une heure à roucouler des élégies sur le bonheur d'être aimé. L'azur du lac paisible, chanson de la brise, concert d'étoiles, etc., etc. Cette manie l'avait fait surnommer l'harmonica par Chaunard. Marcel avait aussi fait à ce propos un mot très joli, où faisant allusion aux tirades sentimentales et germaniques de Rodolphe, ainsi qu'à sa calvitie précoce, il l'appelait myosotis chauve. La vérité vraie était celle-ci. Rodolphe croyait alors sérieusement en avoir fini avec toutes les choses de jeunesse et d'amour. Il chantait insolemment le De Profundis sur son cœur qu'il croyait mort, alors qu'il n'était qu'immobile. Mais prêt au réveil, mais facile à la joie et plus tendre que jamais à toutes les chères douleurs qu'il n'espérait plus et qui le désespéraient aujourd'hui. Vous l'avez voulu, ô Rodolphe, et nous ne vous plaindrons pas, car ce mal dont vous souffrez est un de ceux qu'on envie le plus, surtout si l'on sait que l'on n'en est jamais guéri. Rodolphe rencontra donc la jeune Mimi qu'il avait jadis connue alors qu'elle était la maîtresse d'un de ses amis, et il en fit la sienne. Ce fut d'abord un grand haro parmi les amis de Rodolphe lorsqu'ils apprirent son mariage. Mais comme mademoiselle Mimi était fort avenante, point du tout bégueule et supportait sans mot de tête la fumée de la pipe et les conversations littéraires, on s'accoutuma à elle et on la traita comme une camarade. Mimi était une charmante femme et d'une nature qui convenait particulièrement aux sympathiques plastique et poétique de Rodolphe. Elle avait 22 ans. Elle était petite, délicate, mièvre. Son visage semblait l'ébauche d'une figure aristocratique, mais ses traits, d'une certaine finesse et comme doucement éclairés par les lueurs de ses yeux bleus et limpides, prenaient en de certains moments d'ennui ou d'humeur un caractère de brutalité presque fauve, où un physiologiste aurait peut-être reconnu l'indice d'un profond égoïsme ou d'une grande insensibilité. Mais c'était le plus souvent une charmante tête au sourire jeune et frais, au regard tendre ou plein d'impérieuse coquetterie. Le sang de la jeunesse courait chaud et rapide dans ses veines et colorait de teintes rosées sa peau transparente aux blancheurs de camélia. Cette beauté maladive séduisait Rodolphe, et il passait souvent, la nuit, bien des heures, à couronner de baisers le front pâle de sa maîtresse endormie, dont les yeux humides et lassés brillaient à demi-clos sous le rideau de ses magnifiques cheveux bruns. Mais ce qui contribua surtout à rendre Rodolphe amoureux de fou de Mademoiselle Mimi, ce furent ses mains, qui, malgré les soins du ménage, elle savait conserver plus blanches que les mains de la déesse de l'oisiveté. Cependant, ses mains, si frêles, si mignonnes, si douces aux caresses de la lèvre, ses mains d'enfant entre lesquelles Rodolphe avait déposé son cœur de nouveau en floraison, ses mains blanches de Mademoiselle Mimi devaient bientôt mutiler le cœur du poète avec leurs ongles roses. Au bout d'un mois, Rodolphe commença à s'apercevoir qu'il avait épousé une tempête et que sa maîtresse avait un grand défaut. Elle voisinait, comme on dit, et passait une grande partie de son temps chez des femmes entretenues du quartier dont elle avait fait la connaissance. Il en résulta bientôt ce que Rodolphe avait craint lorsqu'il s'était aperçu des relations contractées par sa maîtresse. L'opulence variable de quelques-unes de ses amies nouvelles avait fait naître une forêt d'ambition dans l'esprit de Mademoiselle Mimi, qui jusque-là n'avait eu que des goûts modestes et se contentait du nécessaire que Rodolphe lui procurait de son mieux. Mimi commença à rêver la soie, le velours et la dentelle. Et malgré les défenses de Rodolphe, elle continua à fréquenter les femmes qui toutes étaient d'accord pour lui persuader de rompre avec le bohémien qui ne pouvait pas seulement lui donner 150 francs pour s'acheter une robe de drap. « Joli comme vous êtes, lui disaient ses conseillères, vous trouverez facilement une position meilleure. Il ne faut que chercher. » Et Mademoiselle Mimi se mit à chercher. Témoin de ses fréquentes sorties, maladroitement motivées, Rodolphe entra dans la voie douloureuse des soupçons. Mais dès qu'il se sentait sur la trace de quelque preuve d'infidélité, il s'enfonçait avec acharnement un bandeau sur les yeux afin de ne rien voir. Cependant, quoi qu'il en fût, il adorait Mimi. Il avait pour elle cet amour jaloux, fantasque, querelleur et bizarre que la jeune femme ne comprenait pas, parce qu'elle éprouvait alors pour Rodolphe que cet attachement tiède qui résulte de l'habitude. Et d'ailleurs, la moitié de son cœur avait déjà été dépensée au temps de son premier amour, et l'autre moitié était encore pleine des souvenirs de son premier amant. 8 mois se passèrent ainsi, alternés de jours bons et mauvais. Pendant ce temps, Rodolphe fut 20 fois sur le point de se séparer de Mademoiselle Mimi, qui avait pour lui toutes les cruautés maladroites de la femme qui n'aime pas. À proprement parler, cette existence était devenue pour tous deux un enfer. Mais Rodolphe s'était habitué à ces luttes quotidiennes et ne craignait rien tant que de voir cesser cet état de choses, parce qu'il sentait qu'avec lui cesserait à jamais et ses fièvres de jeunesse et ses agitations qu'il n'avait point ressenties depuis si longtemps. Et puis, s'il faut tout dire aussi, il y avait des heures où Mademoiselle Mimi savait faire oublier à Rodolphe tous les soupçons auxquels il se déchirait le cœur. Il y avait des moments où elle courbait à ses genoux comme un enfant, sous le charme de son regard bleu, ce poète à qui elle avait fait retrouver la poésie perdue, ce jeune à qui elle avait rendu la jeunesse et qui, grâce à elle, était rentré sous l'équateur de l'amour. 2 ou 3 fois par mois, au milieu de leurs orageuses querelles, Rodolphe et Mimi s'arrêtaient d'un commun accord dans l'oasis fraîche d'une nuit d'amour et de douce causerie. Alors, Rodolphe prenait entre ses bras la tête souriante et animée de son ami, et pendant des heures entières, il se laissait aller à lui parler cet admirable et absurde langage que la passion improvise à ses heures de délire. Mimi écoutait, calme d'abord, plutôt étonnée qu'émue, mais à la fin, l'éloquence enthousiaste de Rodolphe, tour à tour tendre, gaie, mélancolique, la gagnait peu à peu. Elle sentait fondre au contact de cet amour les glaces d'indifférence qui engourdissaient son cœur. Des fièvres contagieuses commençaient à l'agiter. Elle se jetait au cou de Rodolphe et lui disait en baiser tout ce qu'elle n'aurait pu lui dire en parole. Et l'aube les surprenait ainsi, enlacés l'un à l'autre, les yeux dans les yeux, les mains dans les mains, tandis que leurs bouches humides et brûlantes murmuraient encore le mot immortel qui depuis 5000 ans se suspend chaque nuit aux lèvres des amants. Mais le lendemain, bon, le plus futile prétexte amenait une querelle, et l'amour épouvanté s'enfuyait encore pour longtemps. À la fin, cependant, Rodolphe s'aperçut que s'il n'y prenait garde, les mains blanches de Mademoiselle Mimi l'achemineraient à un abîme où il laisserait son avenir et sa jeunesse. Un instant, la raison austère parla en lui plus fort que l'amour, et il se convainquit par de beaux raisonnements, appuyés de preuves, que sa maîtresse ne l'aimait pas. Il alla jusqu'à se dire que les heures de tendresse qu'elle lui accordait n'étaient qu'un caprice de sens pareil à ceux que les femmes mariées éprouvent pour leur mari lorsqu'elles ont la fièvre d'un cachemire, d'une robe nouvelle ou que leur amant se trouve éloigné d'elles, ce qui fait pendant au proverbe « Quand on n'a point de pain blanc, on se contente de pain bis. » Bref, Rodolphe pouvait tout pardonner à sa maîtresse, excepté de n'être point aimé. Il prit donc un parti suprême et annonça à Mademoiselle Mimi qu'elle eut à rechercher un autre amant. Mimi se mit à rire et fit des bravades. À la fin, voyant que Rodolphe tenait bon dans sa résolution, elle accueillait avec beaucoup de tranquillité lorsqu'elle rentrait à la maison après une nuit et un jour passés au dehors. Elle commença à s'inquiéter un peu devant cette fermeté à laquelle elle n'était point habituée. Elle fut alors charmante pendant 2 ou 3 jours. Mais son amant ne revenait point sur ce qu'il avait dit et se contentait de lui demander si elle avait trouvé quelqu'un. Oh, « J'ai seulement pas cherché, » répondait-elle. Cependant, elle avait cherché, et même avant que Rodolphe lui en eût donné le conseil. En 15 jours, elle avait fait 2 tentatives. Une de ses amies l'avait aidée et lui avait d'abord ménagé la connaissance d'un jeune jouvenceau qui avait fait briller aux yeux de Mimi un horizon de cachemire de l'Inde et de mobilier en palissandre. Mais de l'avis de Mimi elle-même, ce jeune lycéen qui pouvait être très fort en algèbre n'était pas un très grand clerc en amour. Et comme Mimi ne met point à faire les éducations, elle planta là son amoureux novice avec ses cachemires qui broutaient encore les prairies du Tibet et ses mobiliers de palissandre encore en feuilles dans les forêts du Nouveau Monde. Le lycéen ne tarda pas à être remplacé par un gentilhomme breton dont Mimi s'était rapidement affolée et elle n'eut point besoin de prier longtemps pour devenir comtesse. Malgré les protestations de sa maîtresse, Rodolphe eut vent de quelque intrigue. Il voulut savoir au juste où il en était et un matin, après une nuit où Mademoiselle Mimi n'était point rentrée, il courut à l'endroit où il la soupçonnait être, et là, il put à loisir s'enfoncer en plein cœur une de ces preuves auxquelles il faut croire quand même. les yeux bordés d'une auréole de volupté, il vit Mademoiselle Mimi sortir du manoir où elle s'était faite anoblir, pendue au bras de son nouveau maître et seigneur, lequel, il faut le dire, paraissait beaucoup moins fier de sa nouvelle conquête que ne le fut Paris, le beau berger grec, après l'enlèvement de la belle Hélène. En voyant arriver son amant, Mademoiselle Mimi parut un peu surprise. Elle s'approcha de lui, et pendant 5 minutes, ils s'entretinrent fort tranquillement. Ils se séparèrent ensuite pour aller chacun de son côté. Leur rupture était résolue. Rodolphe rentra chez lui et passa la journée à disposer en paquets tous les objets qui appartenaient à sa maîtresse. Durant la journée qui suivit le divorce avec sa maîtresse, Rodolphe reçut la visite de plusieurs de ses amis et leur annonça tout ce qui s'était passé. Tout le monde le complimenta de cet événement comme d'un grand bonheur. « Nous vous aiderons, ô bon poète, lui disait un de ceux-là qui avait été le plus souvent témoin des misères que Mademoiselle Mimi faisait endurer à Rodolphe. Nous vous aiderons à retirer votre cœur des mains d'une méchante créature, et avant peu vous serez guéri et tout prêt à courir avec une autre Mimi les verts chemins d'Aulnay et de Fontenay-aux-Roses. » Rodolphe jura que c'en était à jamais fini avec les regrets et le désespoir. Il se laissa même entraîner au bal Mabille, où sa tenue délabrée représentait fort mal l'écharpe d'iris qui lui procurait ses entrées dans ce beau jardin de l'élégance et du plaisir. Là, Rodolphe rencontra de nouveaux amis avec lesquels il se mit à boire. Il leur raconta son malheur avec un luxe inouï de style bizarre, et pendant 1 heure il fut étourdissant de verve et d'entrain. « Hélas, hélas !» disait le peintre Marcel en écoutant la pluie d'ironie qui tombait des lèvres de son ami. « Rodolphe est trop gai, beaucoup trop !»« Il est charmant !» répondit une jeune femme à qui Rodolphe venait d'offrir un bouquet. Et quoi qu'il soit bien mal mis, je me compromettrais volontiers à danser avec lui s'il voulait m'inviter. 2 secondes après, Rodolphe, qui avait entendu, était à ses pieds, enveloppant son invitation dans un discours aromatisé de tout le musc et de tout le benjoin d'une galanterie à 80 degrés, Richelieu. La dame demeura confondue devant ce langage pailleté d'adjectifs éblouissants et de phrases contournées et régences, au point de faire rougir le talon des souliers de Rodolphe, qui n'avait jamais été si gentilhomme vieux Sèvres. L'invitation fut acceptée. Rodolphe ignorait les premiers éléments de la danse à l'égal de la règle de Troie. Mais il était mu par une audace extraordinaire. Il n'hésita point à partir et improvisa une danse inconnue à toutes les chorégraphies passées. C'était un pas qu'on appelle le pas des regrets et soupirs, et dont l'originalité obtint un incroyable succès. Les 3 000 becs de gaz avaient beau lui tirer la langue comme pour se moquer de lui, Rodolphe allait toujours et jetait sans relâche à la figure de sa danseuse des poignées de madrigaux entièrement inédits. Hélas, disait le peintre Marcel, cela est incroyable. Rodolphe me fait l'effet d'un homme ivre qui se roule sur des verres cassés. En attendant, il a fait une femme superbe, dit un autre en voyant Rodolphe s'enfuir avec sa danseuse. Tu ne nous dis pas adieu, lui cria Marcel. Rodolphe revint près de l'artiste et lui tendit la main. Cette main était froide et humide comme une pierre mouillée. La compagne de Rodolphe était une robuste fille de Normandie, riche et abondante nature, dont la rusticité naïve s'était promptement aristocratisée au milieu des élégances du luxe parisien et d'une vie oisive. Elle s'appelait quelque chose comme Madame Séraphine et était pour le présent la maîtresse d'un rhumatisme, pair de France, qui lui donnait 50 louis par mois, qu'elle partageait avec un gentilhomme de comptoir qui ne lui donnait que des coups. Rodolphe lui avait plu. Elle espéra qu'il ne lui donnerait rien et elle l'emmena chez elle. Lucille, dit-elle à sa femme de chambre, je n'y suis pour personne. Et après avoir passé dans sa chambre, elle revint au bout de 5 minutes revêtue d'un costume spécial. Elle trouva Rodolphe immobile et muet, car depuis son entrée, il s'était malgré lui enfoncé dans des ténèbres pleins de sanglots silencieux. Vous ne me regardez plus. « Tu ne me parles pas !» dit Séraphine étonnée. « Allons, se dit Rodolphe en relevant la tête, regardons-la, mais pour l'art seulement. » Et quel spectacle alors vint s'offrir à ses yeux, comme dit Raoul dans les Huguenots. Séraphine était admirablement belle. Ses formes splendides, habilement mises en valeur par la coupe de son vêtement, s'accusaient pleines de provocation sous la demi-transparence du tissu. Toutes les impérieuses fièvres du désir se réveillèrent dans les veines de Rodolphe. Un chaud brouillard lui monta au cerveau. Il regarda Séraphine autrement que pour l'amour de l'esthétique et il prit dans ses mains celle de la belle fille. C'étaient des mains sublimes et qu'on eût dites sculptées par les plus purs ciseaux de la statuaire grecque. Rodolphe sentit ses admirables mains trembler dans les siennes et de moins en moins critique d'art, il attira près de lui Séraphine dont le visage se colorait déjà de cette rougeur qui est l'aurore de la volupté. Mais cette créature est un véritable instrument de plaisir, un vrai Stradivarius d'amour, et dont je jouerais volontiers un air, pensa Rodolphe, en entendant d'une manière très distincte le cœur de la belle battre une charge précipitée. En ce moment, un coup de sonnette violent retentit à la porte de l'appartement. « Lucille, Lucille !» cria Séraphine à la femme de chambre. « N'ouvrez pas, dites que je ne suis pas rentrée !» À ce nom de Lucille, deux fois prononcé, Rodolphe se leva. « Oh, je ne veux vous gêner en aucune façon, madame, dit-il. D'ailleurs, il faut que je me retire, il est tard et je demeure très loin. Bonsoir. »« Comment vous partez ? » s'écria Séraphine en redoublant les éclairs de son regard. « Mais pourquoi partez-vous ? « Je suis libre, vous pouvez rester. »« Bon, impossible, répondit Rodolphe. J'attends ce soir un de mes parents qui arrive de la terre de feu et il me déshériterait s'il ne me trouvait pas chez moi pour lui faire accueil. Bonsoir, madame. » Et il sortit avec précipitation. La servante alla l'éclairer. Rodolphe leva par mégarde les yeux sur elle. C'était une jeune femme frêle, à la démarche lente. Son visage très pâle faisait une charmante antithèse avec sa chevelure noire ondée naturellement, et ses yeux bleus semblaient deux étoiles malades. « Oh, fantôme !» s'écria Rodolphe en se reculant devant celle qui portait le nom et le visage de sa maîtresse. « Arrière, que me veux-tu ?» Et il descendit l'escalier à la hâte. « Mais, madame, dit la camériste en rentrant chez sa maîtresse, il est fou, ce jeune homme. »« Dis donc qu'il est bête, répondit Séraphine exaspérée. « Oh, ajouta-t-elle, ça m'apprendra à être bonne. Si cet imbécile de Léon avait au moins l'esprit de venir à présent. » Léon était le gentilhomme dont la tendresse portait une cravache. Rodolphe courut chez lui au tout d'une haleine. En montant l'escalier, il trouva son chat écarlate qui poussait des gémissements plaintifs. Il y avait déjà 2 nuits qu'il appelait ainsi vainement son amante infidèle, une Manon Lescaut Angora, partie en campagne galante sur les toits d'alentour. Pauvre bête, dit Rodolphe, toi aussi on t'a trompé. Ta Mimi t'a fait des traits comme la mienne. Baste, consolons-nous. Vois-tu, ma pauvre bête, le cœur des femmes et des chattes est un abîme que les hommes et les chats ne pourront jamais sonder. Lorsqu'il entra dans sa chambre, bien qu'il fît une chaleur épouvantable, Rodolphe crut sentir un manteau glacé descendre sur ses épaules. C'était le froid de la solitude, de la terrible solitude de la nuit que rien ne vient troubler. Il alluma sa bougie et aperçut alors la chambre dévastée. Les meubles ouvraient leurs tiroirs vides et du plafond au sol, une immense tristesse emplissait cette petite chambre qui parut à Rodolphe plus grande qu'un désert. En marchant, il heurta du pied les paquets renfermant les objets appartenant à Mademoiselle Mimi, et il ressentit un mouvement de joie en voyant qu'elle n'était pas encore venue pour les prendre, comme elle lui avait dit qu'elle le ferait le matin. Rodolphe sentait, malgré tous ses combats, approcher l'heure de la réaction, et il devinait bien qu'une nuit atroce allait expier toute la joie amère qu'il avait dépensée dans la soirée. Cependant, il espérait que son corps, brisé par la fatigue, s'endormirait avant le réveil des angoisses si longtemps comprimées dans son cœur. Comme il s'approchait du lit et en écartait les rideaux, en voyant ce lit qui n'avait pas été dérangé depuis 2 jours, devant les 2 oreillers placés l'un à côté de l'autre, et sous l'un desquels se cachait encore à demi la garniture d'un bonnet de femme, Rodolphe sentit son cœur étreint dans l'invincible étau de cette douleur morne qui ne peut éclater. Il tomba au pied du lit, prit son front dans ses mains et, après avoir jeté un regard dans cette chambre désolée, il s'écria « Oh, petite Mimi, joie de ma maison, est-il bien vrai que vous soyez partie, que je vous ai renvoyée et que je ne vous reverrai plus, mon Dieu, ô jolie tête brune, qui avait si longtemps dormi à cette place, ne reviendrez-vous plus y dormir encore? Ô voix capricieuse dont les caresses me donnaient le délire et dont les colères me charmaient, est-ce que je ne vous entendrai plus? Ô petite main blanche aux veines bleues, vous à qui j'avais fiancé mes lèvres, ô petite main blanche, avez-vous donc reçu mon dernier baiser? » Et Rodolphe plongeait avec une ivresse délirante, sa tête dans les oreillers encore imprégnés des parfums de la chevelure de son amie. Du fond de cette alcôve, il lui semblait voir sortir le fantôme des belles nuits qu'il avait passées avec sa jeune maîtresse. Il entendait retentir clair et sonore au milieu du silence nocturne le rire épanoui de Mademoiselle Mimi, et il se ressouvint de cette charmante et contagieuse gaieté avec laquelle elle avait su tant de fois lui faire oublier tous les embarras et toutes les misères de leur existence hasardeuse. Pendant toute cette nuit, il passa en revue les 8 mois qu'il venait d'écouler auprès de cette jeune femme, qui ne l'avait jamais aimé peut-être, mais dont les tendres mensonges avaient su rendre au cœur de Rodolphe sa jeunesse et sa virilité première. L'aube blanchissante le surprit au moment où, vaincu par la fatigue, Il venait de fermer les yeux rougis par les larmes versées durant cette nuit. Veille douloureuse et terrible, et comme les plus railleurs et les plus sceptiques d'entre nous pourraient en retrouver plus d'une au fond de leur passé. Le matin, lorsque ses amis entrèrent chez lui, ils furent effrayés en voyant Rodolphe, dont le visage était ravagé par toutes les angoisses qu'il avait assaillies durant sa veille au Mont-Olivier de l'amour. « Bon, dit Marcel, j'en étais sûr. C'est sa gaieté d'hier qui lui a tourné sur le cœur. Ça ne peut pas durer comme ça. » Et de concert avec deux ou trois camarades, il commença sur Mademoiselle Mimi une foule de révélations indiscrètes dont chaque mot s'enfonçait comme une épine au cœur de Rodolphe. Ses amis lui prouvèrent que de tout temps, sa maîtresse l'avait trompé comme un niais, chez lui et au dehors, et que cette créature pâle comme l'ange de la phtisie était un écrin de sentiments mauvais et d'instincts féroces. Et l'un et l'autre, ils alternèrent ainsi dans la tâche qu'ils avaient entreprise et dont le but était d'amener Rodolphe à ce point où l'amour aigri se change en mépris. Mais ce but ne fut atteint qu'à moitié. Le désespoir du poète se changea en colère. Il se jeta avec rage sur les paquets qu'il avait préparés la veille, et après avoir mis de côté tous les objets que sa maîtresse avait en sa possession en entrant chez lui, il garda tout ce qu'elle lui avait donné pendant leur liaison, c'est-à-dire la plus grande partie, et surtout les choses de toilette auxquelles Mademoiselle Mimi tenait par toutes les fibres de sa coquetterie, devenue insatiable dans les derniers temps. Mademoiselle Mimi vint le lendemain dans la journée pour prendre ses effets. Rodolphe était chez lui et seul. Il fallut que toutes les puissances de l'amour-propre le retinssent pour qu'il ne se jetât point au cou de sa maîtresse. Il lui fit un accueil plein d'injures muettes, et Mademoiselle Mimi lui répondit par ces insultes froides et aiguës qui font pousser des griffes aux plus faibles et aux plus timides. Devant le dédain avec lequel sa maîtresse le flagellait avec une opiniâtreté insolente, la colère de Rodolphe éclata bruyante et brutale. Un instant, Mimi, blanche de terreur, se demanda si elle allait sortir vivante d'entre ses mains. Au cri qu'elle poussa, quelques voisins accoururent et l'arrachèrent de la chambre de Rodolphe. 2 jours après, une amie de Mimi vint demander à Rodolphe s'il voulait rendre les affaires qu'il avait gardées chez lui. « Non !» répondit-il. Et il fit causer la messagère de sa maîtresse. Cette femme lui apprit que la jeune Mimi était dans une situation fort malheureuse et qu'elle allait manquer de logement. « Et son amant, dont elle est si folle ?»« Mais, répondit Amélie, l'ami en question, ce jeune homme n'a point l'intention de la prendre pour maîtresse. » Il en a une depuis fort longtemps, il paraît peu s'occuper de Mimi, qui est à ma charge et m'embarrasse beaucoup. Qu'elle s'arrange, dit Rodolphe, elle l'a voulu, ça ne me regarde pas. Et il fit des madrigaux à Mademoiselle Amélie et lui persuada qu'elle était la plus belle femme du monde. Amélie fit part à Mimi de son entrevue avec Rodolphe. « Que dit-il? Que fait-il ? » demanda Mimi. « Vous a-t-il parlé de moi ?»« Non, aucunement. Vous êtes déjà oubliée, ma chère. Rodolphe a une nouvelle maîtresse et lui a acheté une toilette superbe, car il a reçu beaucoup d'argent et lui-même est vêtu comme un prince. Il est très aimable, ce jeune homme, et il m'a dit des choses charmantes. Je saurai ce que cela veut dire, pensa Mimi. Tous les jours, Mademoiselle Amélie venait voir Rodolphe sous un prétexte quelconque, et quoi qu'il fît, celui-ci ne pouvait s'empêcher de lui parler de Mimi. Elle est fort gaie, répondait l'ami, et n'a point l'air de se préoccuper de sa position. Au reste, elle assure qu'elle reviendra avec vous quand elle voudra, sans faire aucune avance et uniquement pour faire enrager vos amis. C'est bien, dit Rodolphe, qu'elle vienne et nous verrons. Et il recommença à faire la cour à Amélie, qui s'en allait tout rapporter à Mimi et assurer que Rodolphe était fort épris d'elle. Il m'a encore baisé la main et le cou, lui disait-elle. Voyez, c'est tout rouge. Il veut m'emmener au bal demain. Ma chère amie, dit Mimi piquée, je vois où vous voulez venir à me faire croire que Rodolphe est amoureux de vous et qu'il ne pense plus à moi. Mais vous perdez votre temps, et avec lui et avec moi. Le fait était que Rodolphe n'était aimable avec Amélie que pour l'attirer chez lui souvent et avoir l'occasion de lui parler de sa maîtresse, mais avec un machiavélisme qui avait peut-être son but. Et s'apercevant bien que Rodolphe aimait toujours Mimi et que celle-ci n'était pas éloignée de rentrer avec lui, Amélie s'efforçait par des rapports adroitement inventés à éviter tout ce qui pourrait rapprocher les deux amants. Le jour où elle devait aller au bal, Amélie vint dans la matinée demander à Rodolphe si la partie tenait toujours. « Oui, oui, lui répondit-il, je ne veux pas manquer l'occasion d'être le chevalier de la plus belle personne des temps modernes. » Amélie prit l'air coquet qu'elle avait le soir de son unique début dans un théâtre de la banlieue, dans les quatrièmes rôles de soubrette, et elle promit qu'elle serait prête pour le soir. À propos, dit Rodolphe, dites à Mademoiselle Mimi que si elle veut faire une infidélité à son amant en ma faveur et venir passer une nuit chez moi, je lui rendrai toutes ses affaires. Amélie fit la commission de Rodolphe et prêta à ses paroles un sens tout autre que celui qu'elle avait su deviner. « Votre Rodolphe est un homme ignoble, dit-elle à Mimi. Sa proposition est une infamie. Il veut vous faire descendre par cette démarche au rang des plus viles créatures. Et si vous allez chez lui, non seulement il ne vous rendra pas vos affaires, mais vous y servira en risée à tous ses amis. C'est une conspiration arrangée entre eux. » « Je n'irai pas, dit Mimi. Et comme elle vit Amélie en train de préparer sa toilette, elle lui demanda si elle allait au bal. « Oui, répondit l'autre. « Avec Rodolphe ? Oui, il doit venir m'attendre ce soir à 20 pas de la maison. « Bien du plaisir, dit Mimi. Et voyant l'heure du rendez-vous avancée, elle courut en toute hâte chez l'amant de Mademoiselle Amélie, et le prévint que celle-ci était en train de lui machiner une petite trahison avec son ancien amant à elle. Le monsieur, jaloux comme un tigre et brutal comme un bâton, arriva chez Mademoiselle Amélie et lui annonça qu'il trouvait excellent qu'elle passât la soirée avec lui. À 8 heures, Mimi courut à l'endroit où Rodolphe devait trouver Amélie. Elle aperçut son amant qui se promenait dans l'attitude d'un homme qui attend. Elle passa 2 fois à côté de lui sans oser l'aborder. Rodolphe était mis très élégamment ce soir-là et les crises violentes auxquelles il était en proie depuis 8 jours avaient donné à son visage un grand caractère. Mimi fut singulièrement émue. Enfin, elle se décida à lui parler. Rodolphe l'accueillit sans colère et lui demanda des nouvelles de sa santé. Après quoi, il s'informa du motif qui l'amenait près de lui. Tout cela, d'une voix douce et où un accent de tendresse cherchait à se contraindre. C'est une mauvaise nouvelle que je viens vous annoncer. Mademoiselle Amélie ne peut venir au bal avec vous. Son amant la retient. Bon, ben, j'irai donc au bal tout seul. Ici, Mademoiselle Mimi feignit de trébucher et s'appuya sur l'épaule de Rodolphe. Il lui prit le bras et lui proposa de la reconduire chez elle. Non, non, dit Mimi, j'habite avec Amélie et comme elle est avec son amant, je ne pourrai rentrer que lorsqu'il sera parti. Écoutez, lui dit alors le poète, je vous ai fait faire tantôt une proposition par Mademoiselle Amélie. Vous l'a-t-elle transmise? Oui, dit Mimi, mais en des termes auxquels, même après ce qui est arrivé, je l'ai pu ajouter foi. Non, Rodolphe, je n'ai pas cru que, malgré tout ce que vous pouvez avoir à me reprocher, vous me croyiez assez peu de cœur pour accepter un semblable marché. Ah, vous ne m'avez pas compris ou on vous a mal rapporté les choses. Ce qui est dit est toujours dit, fit Rodolphe. Il est 9 heures, vous avez encore 3 heures de réflexion. Ma clé sera sur ma porte jusqu'à minuit. Bonsoir et adieu, ou au revoir. Adieu donc, dit Mimi d'une voix tremblante. Et ils se quittèrent. Rodolphe rentra chez lui et se jeta tout habillé sur son lit. À 11h30, Mademoiselle Mimi entrait dans sa chambre. Je viens vous demander l'hospitalité, dit-elle. L'amant d'Amélie est resté chez elle et je n'ai pu rentrer. Jusqu'à 3 heures du matin, ils causèrent. Une conversation explicative où, de temps en temps, le tu familier succédait au vous de la discussion officielle. À 4 heures, leur bougie s'éteignit. Rodolphe voulut en allumer une neuve. Non, non, dit Mimi, ce n'est point la peine. Il est bien temps de dormir. Et 5 minutes après, sa jolie tête brune avait repris sa place sur l'oreiller. Et d'une voix pleine de tendresse, elle appelait les lèvres de Rodolphe sur ses petites mains blanches aux veines bleues, dont la pâleur nacrée luttait avec les blancheurs du drap. Rodolphe n'alluma pas la bougie. Le lendemain matin, Rodolphe se leva le premier et, montrant à Mimi plusieurs paquets, il lui dit très doucement: Voici ce qui vous appartient, vous pouvez l'emporter. Je tiens ma parole. Oh, dit Mimi, je suis bien fatiguée, voyez-vous, je ne pourrais pas emporter tous ces gros paquets d'une seule fois. J'aime mieux revenir. Et comme elle s'était habillée, elle prit seulement une collerette et une paire de manchettes. J'emporterai ce qui reste petit à petit, ajouta-t-elle en souriant. Allons, dit Rodolphe, emporte tout, n'emporte rien, mais que cela finisse. Que cela recommence, au contraire, et que cela dure surtout, dit la jeune Mimi en embrassant Rodolphe. Après avoir déjeuné ensemble, ils partirent pour aller à la campagne. En traversant le Luxembourg, Rodolphe rencontra un grand poète qui l'avait toujours accueilli avec une charmante bonté. Par convenance, Rodolphe allait feindre de ne pas le voir, mais le poète ne lui en donna pas le temps. Et en passant près de lui, il lui fit un geste amical et salua sa jeune compagne avec un gracieux sourire. Quel est ce monsieur? Demanda Mimi. Rodolphe lui répondit un nom qui la fit rougir de plaisir et d'orgueil. Oh, dit Rodolphe, cette rencontre du poète qui a si bien chanté l'amour est d'un bon augure et portera bonheur à notre réconciliation. Je t'aime, va, dit Mimi en serrant la main de son ami, bien qu'ils fussent au milieu de la foule. Hélas, pense Saint Rodolphe, lequel vaut le mieux, ou de se laisser tromper toujours pour avoir cru, ou ne croire jamais dans la crainte d'être trompé toujours.